Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Radio Foot, le deuxième épisode de la semaine avec ses destinations ensoleillé. Hier, c'était plutôt Bretagne et Grande-Bretagne, nous manquions de soleil. Aujourd'hui, nous prendrons la direction de l'Espagne et de la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, terre natale d'un certain Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Hugo, et savez-vous que je suis né exactement 24 heures après un certain Pep Guardiola?
C'est vrai? La même année?
La même année, mais pas au même endroit.
Incroyable, je ne sais que faire de cette anecdote. On lui trouvera bien une utilité à un moment donné dans notre émission. Entre Marseille et Monaco, sur votre Côte d'Azur, Patrick, Marseille et Monaco, deux ogres malades, se trouve un petit poussé sur le point de connaître un pic de croissance, à savoir l'OGC Nice. Avant son rachat, son changement de dimension, votre club de cœur réalise un début de saison canon, avec deux victoires en deux matchs. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour faire l'ouverture de Radio Foot, comme on dit. Il faut dire que mon chef s'appelle Alejandro Valente, il a tenu à ce que nous parlions de la Liga espagnole qui a repris ses droits ce week-end. Bonjour Alejandro.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Rentrée ratée pour le Barça néanmoins.
Bah oui, il y a des rentrées ratées comme justement un certain Pep Guardiola, mais qui avait fini par être champion après 38 matchs.
C'est bon, on l'a casé votre anecdote, on l'a recyclé votre anecdote Patrick. Reprise plus rassurante en revanche pour les deux géants madrilènes, un Atlético remodelé. Alors que le Real pour l'instant fait du neuf avec du vieux, on en parle tout à l'heure. Pas de changement non plus dans l'équipe de Radio Foot, une équipe qui gagne. Patrick Juillard, Alejandro Valente, donc Shérif Guémour également avec nous. Bonjour Shérif.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et Naïm Moniol, bonjour.
Salut Hugo, salut à tous.
Ça va? L'été s'est bien passé?
Ah, très bien.
Très bien. Une touche de jeunesse tout de même. Saïd Hamda, le jeune du centre de formation de Radio Foot, il vient goûter un peu à l'équipe A ces jours-ci. Bonjour Saïd.
Bonjour Hugo.
Merci également au staff technique qui œuvre en coulisses. David Finzel et Laurent Salerno, Radio Foot, c'est parti.
Madrid, couleur d'été.
La frappe de Kroos. Oh, quel but! Bon passant! Le centre de Trippier, Morata. Le premier but pour l'Atlético de Madrid.
Il
avec à l'origine la recrue. Victoire quand même pour l'Atlético.
C'est Jean.
Victoire 3-1 pour cette première journée pour l'équipe de Zinedine Zidane.
Barcelone,
extraordinaire. Le champion d'Espagne tombe déjà. Ah oui, le Barça qui chute d'entrée, défaite 1-0 sur le fil à Bilbao en ouverture de la Liga espagnole vendredi. La faute à une reprise acrobatique superbe du vétéran Aduriz en fin de partie, sans Messi, blessé, sans Busquets sur le banc, mais avec ses recrues De Jong, Griezmann. Le champion d'Espagne a mal débuté sa saison. Est-ce que ça vous inquiète, Alejandro Valente?
Ça m'inquiète pas particulièrement. Cela dit, la victoire de Bilbao me semble assez logique, même si Barcelone a eu ses occasions aussi avec deux tirs sur le poteau notamment. Mais je pense que bon, c'est un match du mois d'août. Après un été où Barcelone a beaucoup voyagé, il est allé au Japon, aux États-Unis. Valverde, l'entraîneur, n'était pas très content de tous ses déplacements. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un peu de ça dans ce résultat.
Simple accro ou première véritable alerte, Patrick Juillard?
Moi, pour moi, ça confirme un petit peu ce qu'on avait déjà vu la saison dernière, c'est-à-dire que Ernesto Valverde n'a pas une grande emprise tactique sur cette équipe, il n'a pas imprimé sa marque au style de jeu du Barça. On ne peut pas dire qu'il y ait un Barça à la Valverde comme il y avait un Barça à la Luis Enrique ou à la Guardiola encore plus, et il reste très dépendant de Lionel Messi. Alors évidemment, vaut mieux être dépendant de Lionel Lionel Messi que de du joueur du coin. Hein. C'est pas mal d'être dépendant de Lionel Messi, mais quand il n'est pas là, il n'a pas vraiment de plan B. En plus, le facteur aggravant, c'est qu'effectivement, l'intégration des recrues, bah, c'est jamais facile dans aucun club et le Barça ne fait pas exception. Et en plus, il y a peut-être eu une erreur de diagnostic au sujet de l'adversaire, c'est-à-dire que c'est un adversaire, c'est une équipe qui aime bien maillotcher, quoi, l'Athletic Bilbao, c'est une équipe qui aime bien, qui est assez virile, et le Barça était un peu trop, a eu le pied un peu léger, quoi. Il a manqué un peu des grognards au milieu de terrain, des Vidal, des Busquets, des Rakitic. Voilà, donc il faudra corriger tout ça, mais plus globalement, je suis un peu inquiet sur l'absence de fond de jeu du Barça. C'est trop dépendant des individualités pour moi.
Donc déjà le procès de Valverde qui est un peu le miraculé de l'été quand même.
Oui, alors le coach du Barça. Miraculé, il a quand même été champion d'Espagne. Hein. Faut pas tout jeter chez Valverde.
Il est sur un siège éjectable.
Il est sur un siège éjectable. Moi, on va poser la question habituelle. Hein, si on le vire, on met qui ? C'est pour prendre des mecs qui font la même chose et qui sont virés 6 mois après.
Faut
ça sert à rien.
Éviter l'OPTI.
il s'est clairement trompé sur son 11 de départ parce que son milieu de terrain, on peut pas jouer avec Alenia et Sergio Roberto comme ça face à une équipe comme Bilbao.
Et De Jong à la rigueur,
même si c'est pas son poste de prédilection, qu'il soit là,
entouré, quoi.
Voilà, qu'il soit titulaire, c'est pas un scandale. Premièrement, deuxièmement, Griezmann complètement exilé sur le côté gauche. Alors, je sais bien qu'il faut lui trouver une place quand il y a l'armada d'attaquants, sauf que Suarez sort au bout d'une demi-heure, que Messi ne joue pas, que Coutinho est parti, que Malcolm est parti. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on aurait pu le remettre dans sa zone de confort, ou auquel cas lui demander de faire ce qu'il faisait à l'Atlético et ce qu'on le voit faire en équipe de France, c'est redescendre un petit peu au milieu pour toucher le ballon, pour créer, pour dynamiser. Parce que qu'on soit dépendant de Messi, Patrick l'a dit, c'est quelque part c'est pas mal. Mais à partir du moment où il est pas là, ce qui est plus gênant, c'est que personne ne vouloir prendre les clés en main. Est-ce que c'est une consigne de Valverde? Est-ce que c'est un petit peu la frousse des uns des autres? Ça, je sais pas, je suis pas dans le vestiaire.
Il a semblé un petit peu perdu par moment. Griezmann, il fait ses
courses. Ce que je peux comprendre, quand il arrive à l'Atlético, on l'a aussi un petit peu vu perdu. Il a fallu que Simeone lui rentre un petit peu dans le buffet pour qu'il se mette au diapason. Que ça se passe comme ça à Barcelone, c'est pas dérangeant. Voilà. Il vient juste d'arriver. Mais quand on connaît Griezmann, quand on connaît son jeu, quand on connaît ses qualités, ne pas l'avoir vu rapidement revenir dans sa zone de confort après la sortie de Suarez, c'est ça qui pose problème.
Voilà, parce que vous parliez de ses débuts à l'Atlético. Il a véritablement brillé avec les Colchoneros et puis après avec l'équipe de France en prenant possession de l'axe de l'attaque, Chérif. Et là, on le remet à gauche.
Non, mais il y avait quand même plus de certitude dans le jeu de Simeone à l'Atlético Madrid. Bon, c'est le jeu qu'on connaît, on aime ou on n'aime pas, mais peu importe, il est très très cohérent. Donc après, pour que Griezmann puisse trouver sa place dans un ensemble cohérent, ça demandait un certain temps. Là, ce qu'on voit avec le Barça, après, c'est que le début, attention, on voit un joueur perdu, tentant était à gauche. Je rappelle que par moment, il est passé à droite, il s'est marché un peu sur les pieds avec Suarez et tout. Bon, il n'a pas trouvé ses marques. L'équipe n'est pas encore au complet, on va attendre encore un peu. Et puis, je dis souvent à propos du Barça, et on va peut-être parler du Real après, il y a encore une année qui est passée. Et voilà, on va pas attendre que de joueurs comme Rakitic ou Busquets, ils ont plus le rayonnement qu'ils avaient avant et ça commence à peser année après année. Ils sont encore là, c'est bien, mais le temps passe et le temps n'attend personne.
Dembélé s'est blessé. Cher Alejandro Valente, Griezmann.
Au mauvais moment, hein. C'était pas le moment de se blesser.
Mais de fatigue.
Suarez
est sorti. Déjà, Dembélé, une attaque un peu dépeuplée.
Dembélé avait fait un match très décevant avec beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de mauvaises décisions, aucune accélération. En plus, il semblait gêné dans une de ses cuisses et cela s'est confirmé après. Malheureusement, il a tardé à prévenir les médecins qu'il avait mal et il a préféré partir en week-end avant de le faire. Donc tout ça, ça vient ajouter au passif d'un joueur qui n'arrête de décevoir globalement les Blaugrana.
C'est dommage, il commence à s'intégrer. Là, il a l'occasion parce que bon, il y a quand même, c'est un peu dépeuplé en attaque. C'est là qu'il faut imprimer sa marque.
C'est le moment où il fallait pas se blesser.
Quoi. C'est exactement ça.
D'autant qu'il a insisté pour rester.
Un certain manque de professionnels. Malheureusement, je suis pas du genre à accabler les jeunes joueurs et à être paternaliste, mais on peut quand même constater que chez Dembélé, il y a un certain manque de professionnalisme. Quoi.
C'est malheureux. Des noms qui reviennent.
Des soucis d'ordre physique, mais pas que, avec donc Messi, Suarez, Dembélé. Bon, faut recruter Neymar du coup, non? Pour faire le nombre.
Faut recruter Neymar. Non, mais si c'était qu'une histoire de montage financier avec du cash et un joueur, il serait déjà là. Le problème, c'est que le PSG veut pas. Donc c'est aussi ça. Moi, je crois pas au fait que le Barça veuille recruter Neymar et veuille empiler les attaquants comme ça. Il faut à un moment donné être logique. On peut pas et recruter Neymar et garder Dembélé et garder tout le monde. C'est pas possible.
Alors inversons le problème. Est-ce que le Neymar Dembélé pourrait profiter? Est-ce que le Barça pourrait profiter de l'arrivée de Neymar au
si,
ce début
si,
de
oui,
saison
oui,
compliqué?
Oui. Mais quand on parle du vrai Neymar, oui, évidemment, c'est un joueur qui peut faire du bien à n'importe quelle équipe. Mais on parle du vrai Neymar. Oui, ce sera un plus pour le Barça.
Mais comme l'a dit Naïm, plutôt du point de vue de Neymar que je suis un peu sceptique, parce que Neymar est parti du Barça pour ne plus être dans l'ombre de Messi et essayer de se tracer son propre destin en allant au PSG, peut-être en se méprenant sur les possibilités du PSG de lui offrir ce tremplin-là. Et maintenant, il retournerait au Barça, se remettre dans l'ombre de Messi. Alors, c'est une très belle ombre et c'est une ombre qui, finalement, sur le terrain, paradoxalement, ne fait pas trop d'ombre.
Quand même, donc ça mais, peut être intéressant.
Et permet aussi de s'exprimer, mais je pense que ça pourrait être vu comme un certain surplace dans sa carrière.
Alors là, on se perd un peu en conjecture, on émet des hypothèses. Factuellement, on en est où, Barça et Neymar, on en est où, Alejandro?
Moi, ce que je constate, c'est que Neymar a toujours dit qu'il voulait revenir au Barça. Visiblement, ouais. Il l'a répété à plusieurs reprises aux dirigeants du PSG. Barcelone fait une offre qui correspond globalement apparemment à ce que le PSG en attend, sauf que avec un délai pour le gros du paiement qui serait d'une année, une option d'achat obligatoire. Je pense que si le PSG est un peu cohérent avec l'idée que le PSG et Neymar doivent se séparer, il faudrait que cette opération aboutisse. Et je pense que c'est la meilleure piste aujourd'hui pour moi.
Marcelo Isco. Marcelo encore, Benzema, oh, magnifique, magnifique Benzema, Vasquez! Quel autre golazo du Real Madrid, techniquement admirable, ce qu'ont fait les joueurs de Zidane et Karim Benzema, le Real, 3, le Celta 0.
3 au final pour le Real Madrid qui lui n'a pas raté sa rentrée des classes, succès donc 3-1 à Vigo sur le terrain du Celta, Benzema, Kroos, magnifique frappe, et Vasquez, on vient de l'entendre, bien servi par Benzema au terme d'un superbe mouvement collectif sont les buteurs. Le Real vous a-t-il rassuré? On rappelle que l'été a été agité, des arrivées, des matchs de préparation ratés, un 7-3 encaissé contre l'Atlético de Madrid. Mais une victoire pour commencer, est-ce que ça vous a rassuré, Chérif Guémont?
Pas tant que ça. Après, bon, le Real reste le Real. Il y a le charisme. Quand on les affronte, on sait que tout est possible. Voilà, il y a un joueur, il y a la frappe de Kroos. Je suis désolé, mais bon, quand on prend un but comme ça, on s'en relève pas, quoi. Bon, voilà, c'est Benzema a marqué son but. Un pur but de numéro 9, c'est parfait. Moi, j'ai vu surtout une équipe coupée en deux qui subit beaucoup d'occasions dans ses 18 mètres. Je comprends l'impérieuse nécessité de Zidane de vouloir recruter Pogba. Ouais. Là, on comprend vraiment.
Ouais.
Là, c'est. Alors, là, je lance un débat, donc après, on en fera ce qu'on voudra et tout. On connaît les grandes, grandes affinités dans le passé entre Zidane et Makelele. S'il pouvait prendre Kanté aussi, bon, là, bon, j'extrapole. Mais déjà, Pogba, c'est indispensable. Et après, on reparlera de Pogba, non, si c'est United.
On peut effectivement lancer le débat sur les.
L'équipe est coupée en deux. Alors, voilà, tactiquement, là, on est sérieux.
C'est une des pistes de. C'est plus qu'une piste, c'est un objectif de Zidane sur ce mercato.
C'est même une urgence aujourd'hui pour le Real Madrid d'avoir un milieu de terrain, parce que le souci, et c'était un petit peu le souci quand ils ont prolongé Modric, quand ils ont prolongé Kroos la saison dernière, c'est-à-dire que tu savais que tu allais repartir avec le même milieu, mais c'est un milieu qui est de moins en moins influent. Et regardez un petit peu la relation, notamment avec Karim Benzema. C'est ça qui a un petit peu coupé l'équipe en deux, c'est que ce milieu-là a finalement très peu touché de ballon et qu'on est toujours passé entre l'arrière et l'attaque sans passer par les joueurs intermédiaires.
Modric a été expulsé.
Et puis ils ont jamais su quoi faire de Denis Suarez, qui leur a absolument tout fait. Absolument tout fait. On a vu Casemiro aller dessus, on a vu Odriozola aller dessus, on a vu Bale revenir dessus, on a vu un peu tout et n'importe quoi tactiquement dans cette équipe. Et je pense que avoir un milieu de terrain, un type qui va vraiment peser, amener une différence, notamment dans son jeu long, c'est que Pogba excelle là-dedans. La priorité aujourd'hui pour le Real Madrid, c'est d'avoir un milieu de terrain. Après, Benzema, il a affûté. Double surprise avec Gareth Bale, de le voir d'abord titulaire et de le voir autant jouer le jeu, parce que pour le coup, il a vraiment pas ménagé ses efforts.
Vinicius, pas mal.
Donc voilà, Vinicius qui fait du Vinicius. Il est bon, il a du talent. Ouais. Après, il faut qu'il apprenne à faire des passes.
C'est Dembélé.
Non mais si, c'est ça.
On disait Patrick Juillard, je disais en introduction que le Real faisait un peu du neuf avec du vieux Bale qui se relance alors qu'il était sur le départ. Benzema toujours très bon. Vasquez.
Moi, ça m'inquiète pas trop offensivement. Je rejoins ce qu'a dit Naïm, c'est-à-dire Bale s'il se remet dans l'état d'esprit d'un joueur qui est focalisé sur sa saison et qui pense pas à son transfert, c'est un excellent joueur.
Le problème, c'est qu'il fait jamais des saisons complètes.
Hein. Oui, après, il y a le problème des blessures, mais quand il est apte, c'est un excellent joueur. C'est pas un problème pour un entraîneur, Gareth Bale. Là où ça devient un problème, c'est ce milieu qui manque un peu de peps. Hein. Maintenant, c'est vieillissant. Alors, Kroos, c'est un super joueur.
Le temps passe,
sur les balles arrêtées. Le temps passe. Et oui, c'est inexorable.
Casemiro, voilà.
Casemiro, il mériterait d'être un peu mis en concurrence. Et puis, il y a aussi un problème de banc défensif. Odriozola, qui remplaçait Carvajal, c'était catastrophique. Enfin, c'est-à-dire, il faisait tout juste le boulot défensivement et il apportait rien offensivement, globalement.
Marcelo revient bien,
j'ai trouvé Marcelo meilleur que sur ce qu'on avait vu la saison dernière, mais ça reste aussi un joueur qui est plutôt en fin de cycle, donc je pense qu'il manque un peu des joueurs de complément dans ces secteurs là et puis
donc on va attendre voir ce que donnent les recrues
Hazard
évidemment
aussi, je pense que ça c'est bien
évidemment.
Et moi je suis pas trop inquiet, mais c'est effectivement au milieu qui manque, et il leur reste quelques jours, il leur reste une douzaine de jours pour à mon avis prendre un milieu de haut niveau, à défaut de Pogba, quelqu'un d'autre qui puisse apporter un peu aiguillonner.
Si c'est clair, c'est Pogba ou rien.
Ouais, voilà. Mais après Pogba, ça va être. Je vois pas tellement Manchester United lâcher Pogba alors que le mercato est terminé, qu'il
Neymar,
ne pourrait pas le remplacer.
Et Neymar, parce que Neymar il va aller au Barça, mais le Real est.
Ben Neymar,
est-ce que le Real profiterait d'une arrivée de Neymar.
Ça supposerait un changement de schéma tactique.
Neymar, c'est quand même une opportunité de marché pour le président, mais certainement pas une volonté de Zidane. Ça serait complètement incohérent avec ce qui a été recruté et mis en place depuis le début du mercato estival. Donc après évidemment, faire Neymar avec tout ce que ça peut comporter, marketing, publicité, et puis faire peur un peu, très bien, c'est un joueur qui a du talent, on va pas mentir. Mais ça serait incohérent. Dans ce Real Madrid-là, ça serait incohérent.
Mais ce qui est intéressant avec le Real Madrid, c'est que on avait parlé de la patte Zidane, du défi Zidane, du challenge Zidane. Il est là, le vrai défi. Parce que quand il est pas... En fait, il retrouve une équipe qu'il avait laissée, qui était en fin de cycle. Rappelez-vous, il avait refusé tous les recrutements pour gagner sa troisième Ligue des Champions d'affilée. L'année dernière, ça a donné ce que ça donnait, Real, ni champion, ni Ligue des Champions, donc ça a patiné. Là, Zidane revient au point zéro. C'est-à-dire, il retrouve quasiment les... Bon, évidemment, il y a Hazard.
Oui, pour l'instant, il peut compter sur eux, c'est intéressant.
Oui. Mais là, il retrouve le... Je parle du gros de l'effectif, c'est celui qui l'a laissé quand il est parti. Après, bon, on peut discuter du gardien aussi. Moi, personnellement, je préfère Navas à Courtois, mais bon, ça c'est...
Pas fait un mauvais match hier.
Bon,
je suis d'accord, mais je n'aime pas Terence.
Non, mais Navas, il dégage, je trouve, plus de sérénité.
Navas, c'est le Real.
Il est plus solide mentalement, je trouve.
Voilà. En tout cas, on a bien compris que le Real, chérièrement, on a bien compris que le Real ne vous avait pas convaincu, ni vous, ni Naïm, ni Patrick. Néanmoins, sur le plan du résultat, c'est une entrée en lice réussie.
C'est rassurant de gagner sans très bien jouer pour une équipe ambitieuse.
Exactement. Entrée en lice réussie. Pour l'autre ogre madrilène, il faut qu'on enchaîne, mon cher shérif, l'autre ogre madrilène, l'Atlético de Madrid.
Et por ahí está João Félix. Oh, vaya cañito, João Félix le agarra Faisal Fajir que tiene una amarilla. ¡Oh, qué maravilla! Pero qué clase tiene João Félix. Se marcha João Félix, vaya jugada João Félix, penalti. Penalti sobre João Félix, la que acaba de liar el portugués. ¡Qué jugador! ¡Qué clase, João! ¡Maravilla!
C'est Morata, un ancien du Real, qui a offert la victoire au Colchoneros dimanche contre Retafe.
Joue à domicile.
1-0.
Compare aux deux autres.
Effectivement, c'est bien de le signaler. Morata qui a également raté un pénalty obtenu suite obtenu suite à une action magnifique de la nouvelle pépite, de la nouvelle figure de proue du projet de l'Atlético de Madrid.
À l'aise avec les pénaltys.
Le portugais João Félix, cessez de m'interrompre, messieurs. Les vacances vous ont fait perdre en discipline. La conclusion, donc, ce pénalty, je le disais, Seydam, je vais me tourner vers vous. Vous êtes sérieux, vous m'écoutez. La conclusion d'un rush magnifique de João Félix. Félix, donc ce Portugais acheté à prix d'or, arraché à prix d'or au Benfica Lisbonne. dites-nous-en un peu plus sur celui qu'on attend vraiment du côté du Wanda Metropolitano.
C'est ça, on parle beaucoup de la nouvelle sensation, João Félix. Je voulais le faire en portugais, ça n'a pas trop fonctionné. Je vous propose d'en savoir un peu plus sur le portugais de 19 ans. Alors, il faut savoir qu'il a été formé à Porto pendant 6 années, ça peu de gens le savent, puisqu'il a éclos à Benfica. Il n'a pas été gardé à Porto parce qu'il était jugé trop frêle et trop petit, mais c'est pas grave. Il a fait une petite escale à Padroense au Portugal avant de s'envoler au Benfica, où il finit par exploser. La saison dernière, il fait une saison aboutie en championnat comme en Europa League. Et donc, il signe pour la capitale espagnole pour 126 millions d'euros. La mission, elle est assez claire. Il faut remplacer Antoine Griezmann, parti au Barça. Et c'est avec l'héritage du numéro 7 que le Portugais devra faire oublier donc le Français et aussi le montant de son transfert. Et il a démarré fort, très fort, avec une pré-saison réussie. 4 buts en 5 matchs et pas face à n'importe qui. Le Real, tout à l'heure, vous le rappeliez, qui ont battu 7-3. Voilà, c'est ça. Face à la Juve aussi, où il offre la victoire à son équipe. Ce week-end aussi, il réussit une première bonne prestation face à Getafe. Il s'est fait remarquer notamment par un rush de 60 mètres qu'on a entendu tout à l'heure. Malheureusement, il est sorti sous blessure, mais son coach Diego Simeone a tenté de rassurer en conférence de presse en assurant que c'était plutôt de la prévention.
João Félix, il est attendu dans un Atlético qui a été renouvelé cet été. Des cadres sont partis, Godin, Juan Fran, bien sûr, ouais. Antoine Griezmann. Qu'en pensez-vous de cet Atlético de Madrid new look?
Disons que un peu le défi pour João Félix, c'est vrai que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, et ça il le rappelait, il est un peu frêle quand même, et on a vu qu'il a quitté le terrain avec et visiblement un épuisement total. Donc l'Atlético, c'est un club où un joueur comme lui ne peut pas se contenter de briller, il faut qu'il travaille énormément, et donc il faut voir si physiquement il va pouvoir tenir la distance dans une équipe qui a tendance à beaucoup fatiguer ses joueurs. On connaît l'exigence des Simeone. Après, c'est une équipe qui est en train d'évoluer vers plus de possession. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Ça n'a pas sauté aux yeux première journée.
C'était franchement un match pas beau techniquement, mais avec l'Atlético et Getafe, on savait un peu à quoi on s'attendait. C'est un jeu latin, si tu veux, l'Espagne, mais c'est quand même très différent du Portugal. Et quand Alejandro parle du volume de jeu, c'est vrai qu'il va falloir qu'il progresse là-dessus, qu'il se muscle un petit peu. Après, il est très très fort, gros talent. Il a été recruté pour jouer dans une attaque à deux, comme au Portugal. Il a des ailiers, Lemar et Koke, qui rentrent à l'intérieur. Il a Solniguez avec lui, ça veut dire qu'il va avoir de l'espace, il va toucher le ballon, il va se retrouver rapidement sur ses qualités, c'est-à-dire toucher la balle, éliminer, se retourner, jouer avec ses appuis. Il est pas maladroit devant le but. Voilà, on le verra de cette saison, on l'a beaucoup vu avec le Portugal, notamment en Ligue Europa l'année dernière avec Benfica. Donc, il va s'intégrer. Le facteur X, c'est combien de temps va-t-il mettre pour avoir ce fameux volume de jeu qui lui permette de jouer à l'Atlético, de redescendre avec le bloc, ce que Griezmann avait eu beaucoup de mal à faire à l'époque. Il a mis même quelques mois à y arriver. Voilà, l'équation, elle est là-dessus, sur ses qualités de footballeur et sur sa manière de s'intégrer avec les autres, même avec Thomas Partey. On a vu pas mal de beaux enchaînements. Moi, je suis pas inquiet là-dessus.
Et une autre recrue, des Colchoneros, c'est distingué, Trippier, latéral droit, passeur décisif, donc en première période pour Morata.
Un but anglais qu'ils ont mis.
L'Atlético a des ressources.
L'Atlético.
Trippier, vous êtes d'accord, avec ça?
Trippier, moi je suis pas fan parce que il faut se rendre compte de l'immense réservoir de latéraux droits dont dispose l'Angleterre. Puisque Trippier est que quatrième dans la hiérarchie si vous mettez devant lui Walker, Alexander Arnold et Wan-Bissaka, le néo,
mancunien.
Donc voilà, c'est un joueur qui a, lui par contre, c'est un petit peu l'inverse de João Félix. Il a toutes les qualités de besogne et de combat. Mais je pense qu'il va falloir que techniquement, il ait moins de déchets quand même que ce qu'il avait en Angleterre. João Félix, pour revenir à lui, c'est un pari sur le. Je pense qu'on fait un pari sur son intelligence, c'est-à-dire comment il va s'adapter aux exigences de Simeone. Il se dit, de toute façon, au niveau technique, on n'a pas grand-chose à lui apprendre. C'est un joueur, c'est un crack, ce joueur-là. Il a tout ce qu'il faut pour éliminer, pour faire des différences, et il a un sens du but redoutable. Maintenant, comment va-t-il s'adapter aux nouvelles exigences? Comment va-t-il franchir un cap dans l'engagement, dans l'intensité? Et c'est ce qu'avait réussi à faire Antoine Griezmann, qui avait, comme lui, le profil d'un joueur trop frêle, et qui, comme lui, avait été recalé dans son jeune âge par des centres de formation pour cette raison-là. Donc, c'est un peu paradoxalement, Simeone, il réussit la revanche du beau jeu, alors que c'est un entraîneur censé être un peu un bourrin, quoi. Donc c'est marrant.
En tout cas, ça annonce une saison de Liga intéressante à suivre. On va suivre les pas du Barça, du Real et de l'Atlético. Clairement, les trois favoris pour la victoire finale. Ça n'a pas franchement changé. Voilà pour la rentrée des classes en Liga, un championnat, on l'a dit, dans lequel n'évolue toujours pas un certain Paul Pogba. Paul Pogba aurait pu offrir à Manchester United hier à Wolverhampton un deuxième succès en deux journées de Première Ligue, mais le champion du monde a lui aussi, comme Morata, a raté un penalty en seconde période, mal tiré, repoussé par Rui Patricio, le portier portugais. Ça nous rappelle quelques souvenirs, la finale de l'Euro 2016. Au final, match nul pour les Red Devils. Un partout, donc à Wolverhampton. C'est un autre Frenchie, on vient de l'entendre, Anthony Martial, qui a fait trembler les filets pour United, qui a ouvert la marque en première période. Avant de parler Pogba, justement, un mot sur Anthony Martial, qui est très en forme en ce début de saison, Saïd Hamda.
C'est ça, je vais ouvrir un petit peu le débat sur Anthony Martial. Vous le savez tous ici, Manchester United a beaucoup misé sur lui. 50 millions hors bonus en 2015 pour l'arracher à Monaco. Et le bilan est jusqu'à présent mitigé. Il alterne le bon et le moins bon. Mais cette année, ça peut changer pour plusieurs raisons. Déjà, le club lui maintient sa confiance. Janvier 2019, il est prolongé jusqu'en 2024. Il récupère aussi le numéro 9 laissé libre par Lukaku. Alors vous allez me dire, c'est symbolique certes, mais le symbole est quand même fort. Dorénavant, il aura l'occasion de composer un trio offensif avec Rashford et Lingard, des joueurs avec lesquels il aura des affinités techniques plus évidentes qu'avec Lukaku. Ça lui permettra aussi de combiner beaucoup plus qu'avant. Cette saison, avec une concurrence inexistante à son poste, il aura toute la marge de manœuvre nécessaire pour s'imposer. Et ça commence plutôt bien, comme vous l'avez rappelé, puisqu'il est déjà à 2 buts en autant de rencontres en Première Ligue. Et son coach, lui, y croit, puisqu'il a déclaré « Martial va continuer de progresser ».
Alors, les espoirs, il y en a eu beaucoup autour d'Anthony Martial. Ils n'ont pas toujours été confirmés, récompensés. Est-ce que c'est enfin la bonne saison pour Anthony Martial, Naïmonial ?
Bah, Saïd vient de dire qu'il n'y avait pas énormément de concurrence à son poste et qu'il allait jouer, donc on va très rapidement...
C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, du coup ?
Non, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est un garçon qui a du talent. Quand on dit qu'il n'a pas toujours brillé l'intermittent, c'était peut-être le joueur le plus récurrent et le plus régulier sous Mourinho, ce qui n'était pas donné. Donc voilà, c'est un garçon qui est fort, qui s'entend très bien avec les autres, qui a des vraies qualités de buteur, pied droit, pied gauche, qui est rapide, il a toutes les qualités pour réussir. Après, c'est pareil, que va donner Manchester United sur la durée ? C'est aussi ça, c'est une équipe, moi j'ai regardé le match hier, je me suis fait une réflexion, c'est des joueurs qui commencent à avoir un petit peu d'expérience parce qu'ils sont arrivés très tôt, mais c'est très jeune. Wan-Bissaka, James, Lingard, Rashford, Martial, c'est des gamins.
Mais qui jouent en Première Ligue,
ils ont commencé tôt,
mais il y a très peu de tauliers, t'as pas énormément de tauliers, si Pogba s'en va, tu vas te retrouver avec une équipe finalement... très jeune.
Je suis d'accord. Et donc, en plus, voilà. La vieille garde des Smalling, elle est plus là. Enfin,
les tauliers sont en défense plutôt.
Donc, voilà. Moi, Martial,
dans les buts et devant.
Je veux croire que Martial va faire une saison à la Martial, c'est-à-dire qu'il va marquer entre 15 et 20 buts.
C'est pas suffisant. Alors, qui va être l'un des buteurs
de Manchester United. Maintenant, à titre personnel, et c'est vraiment un avis personnel, il n'est pas dans la lignée des grands attaquants de Manchester United. C'est pas un Rooney, c'est pas un Van Nistelrooy, c'est pas un York, c'est pas un Cole.
Voilà.
Donc, le fidéliser, le mettre en titulaire, c'est une chose. Je pense que pour que Manchester United redevienne le grand club qu'il était, il faudrait au moins un autre mec avec lui.
Il faut le... Voilà.
Mais non, mais c'est
voilà,
pas...
Je vais prolonger ce que tu as dit. À Manchester United, il y a le culte du numéro 9 à l'anglaise. Enfin, à l'anglaise, pas forcément un anglais, ce que je veux dire. C'est qu'il faut vraiment... Il y a le culte du numéro 9. Tu as parlé de 15-20 buts. C'est un peu comme ça que je l'évalue. Mais c'est pas suffisamment. C'est pas suffisant. Manchester United, c'est entre 25 et 30. Après, tactiquement... J'ai l'impression qu'il a toujours pas intégré le fait que c'est, notamment en Angleterre et avec Manchester United, c'est numéro 9 in the box, c'est-à-dire devant les buts. Or, le fait qu'il ait quand même pas mal été trimballé dans sa carrière un peu sur le côté gauche, un peu dans l'axe, ou en complément de il est pas toujours, moi je l'ai vu le premier match là, je le vois pas toujours dans la zone de vérité, c'est-à-dire devant les buts. Il est encore, il se cherche encore un peu. Alors que là, il va falloir s'assumer en tant que numéro 9, c'est-à-dire déjà aller au charbon, marquer des buts. Tu as dit qu'il a le droit, le gauche, il lui manque le jeu de tête. Attention, il est pas super bon là-dedans. On est en Angleterre. Tu as Manchester United, tu dois être bon de la tête. Il y a une tradition. Et donc voilà, il faut vraiment intégrer ce poste. Et ça veut dire quoi, intégrer le poste de numéro 9? Et là, c'est le numéro 9 dans tous les pays. Il faut savoir être patient. C'est-à-dire, voilà, tu es numéro 9, tu es devant les buts. Des fois, tu touches pas le ballon. Alors si tu commences à décrocher un peu trop, tu commences à t'excentrer sur le côté gauche, et ben t'es plus dans la boîte.
Patrick
donc,
Juillard.
C'est un pari, attention.
Patrick
c'est un
Juillard pari. Sur Anthony Martial, et après on passe à...
Mais il est d'accord avec moi, Patrick.
Oui, non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'Anthony Martial, j'ai aucun doute sur ses qualités de footballeur. Elles sont très importantes. C'était un crack et il n'a pas perdu cette dextérité avec le ballon, cette qualité de cette subtilité, ces enchaînements, ce bon placement. Mais effectivement, il manque peut-être la dimension de leadership. Il manque peut-être, alors il avait l'excuse d'être jusqu'alors très jeune et souvent parmi les plus jeunes de son équipe. C'est quand même de moins en moins le cas, et c'est moins le cas dans cette équipe de United, où mine de rien, c'est quand même presque le vétéran de la ligne d'attaque qui est extrêmement jeune.
Il est arrivé en 2015.
Ajouté au départ de Lukaku, je pense qu'il faut qu'il fende un peu l'armure. Ouais. Et s'il le fait, je pense que ça peut aller loin.
Allez, on passe.
Parce que Rashford n'est pas son ami.
On passe.
Rashford peut passer numéro 9.
On passe à Pogba. Sheriff Gaymour, mais quelle indiscipline.
Ouais, c'est moi le plus sage aujourd'hui.
Exactement. C'est dire un Pogba toujours aussi incontrôlable, hein, tel un Sheriff Gaymour sur le terrain. Penalty raté, un mauvais point. Pour lui, votre point de vue sur ce début de saison de Paul Pogba, vous avez dit que le Real avait besoin de lui. Mérite-t-il de quitter Manchester United? Doit-il quitter Manchester United, selon vous? Ouais. Inverser la perspective, Neymoniel.
Oui, il doit, parce que je sens qu'il est malheureux à Manchester. Ouais. Je sens que lui, il veut partir. C'est un peu comme Neymar à Paris, il veut plus jouer. Ouais. Jusqu'à présent, il joue le jeu un peu à la Bale. Ses deux premières journées ont été correctes. Sans être transcendant, il a été correct. Il a fait une passe décisive pour Rashford au premier match.
Bon, hier, vous sentez que c'est la fin de l'histoire, là? Ça sent
Je pense qu'il ne progressera plus footballistiquement s'il reste à Manchester United. Ce qui n'est pas une bonne chose pour son équipe, ce qui n'est pas une bonne chose pour lui. C'est perdant-perdant. Donc je pense qu'il a besoin
Sauf en équipe de France, Naïm. C'est un miracle.
Oui, mais l'équipe de France, ça va être un peu plus récurrent parce que t'as le roi à la fin de l'année, mais c'est trop sporadique. C'est que le pain quotidien, c'est le championnat, c'est le club, c'est la Coupe d'Europe.
Mais il aurait pu être entraîné dans sa mauvaise spirale avec l'équipe de France, et c'est pas le cas. C'est plutôt une bonne chose.
Il est moins le taulier en équipe de France qu'à Manchester United. Il y a des mecs autour de lui, beaucoup plus. Ouais. Donc moi, je pense qu'il doit s'en aller.
Saïd Hamda.
Je partage pas cette opinion. Je pense que c'est un peu trop tard pour s'en aller. Il va écorner son image s'il venait à partir maintenant. Et c'est quelqu'un qui fait très attention à ça.
T'arrête 30 secondes. Tu crois qu'il a quelle image aujourd'hui à Manchester United?
Non, mais quelle image il a?
Laissez finir.
Aujourd'hui, à Manchester United, quand on lui pose la question de est-ce qu'il veut partir, il ne répond pas. Il botte en touche. Il dit je jouerai là où je suis. Mm-hmm. Ce qui est assez malin de sa part. Ouais, aujourd'hui, il est là.
En tout cas, c'est plus professionnel que Neymar au PSG.
Exactement. Il assure ses arrières. Maintenant, s'il doit faire une saison de plus à Manchester, il la fera et il sortira par la grande porte à Manchester. Aujourd'hui, s'il part de Manchester.
Pogba ne sortira jamais par la grande porte à Manchester United. Tu crois qu'un mec qui rate un penalty, qui se fait insulter de tous les noms sur Twitter, c'est un mec qui a une bonne image?
Ça arrive dans tous les clubs.
Ça n'arrive pas dans tous les clubs. Ben non, ça n'arrive pas dans tous les clubs.
Ça n'arrive pas dans tous les clubs.
On va juste l'évoquer, cet épiphénomène. Il s'est fait insulter sur les réseaux sociaux, des insultes.
Ah, ça c'est immonde, c'est abject.
C'est ridicule, c'est tout ce qu'on veut. Mais ça traduit quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, Pogba et Manchester, c'est fini. Ouais. Ça n'a jamais été l'homme fort du club.
Naïm, c'est quelqu'un qui a toujours dégagé. Mais le marché est clos.
Ils ne pourront pas le remplaccer. Mais si Manchester United,
en Angleterre,
si le Real, dans le sens des arrivées, pas dans le sens des départs, s'il y a un chèque suffisamment costaud, moi je te jure qu'il le laisse partir.
Et toi, tu penses que United fera toute la saison avec McTominay titulaire?
Non, mais il y a un mercato au mois de décembre.
Oui, mais c'est dans 3 mois. Donc.
Patrick, depuis combien de temps Manchester n'a pas été champion?
Depuis 2013.
Est-ce qu'ils vont être champions cette année, Manchester?
Non, c'est pas sûr.
2013, dernière saison de Sir Alex Ferguson.
Faut percer l'abcès maintenant.
On rappelle que
qu'ils sont pas champions,
c'est un
de toute
peu tard.
Façon.
On rappelle, messieurs, que Paul Pogba, il avait déjà joué et quitté par la petite porte Manchester United, justement à la fin de l'ère Ferguson. Ce serait donc un deuxième passage mitigé hein, s'il venait à, s'il venait à partir. On a tout dit. Il restera pas mal à dire sur Manchester United et sur la Première Ligue anglaise. On change de pays pour évoquer un autre penalty raté décidément.
C'est un pénalty après une demi-heure de jeu et peut-être le premier but dans le championnat de France de l'Argentin Dario Benedetto. C'est frappé en face, au-dessus, entrée en matière, raté pour Dario Benedetto.
Ah oui, première titularisation inoubliable pour Dario Benedetto à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Inoubliable dans le mauvais sens du terme. Face à Nantes, samedi, l'avant-centre argentin aurait pu donner l'avantage à son équipe. Son pénalty s'est envolé dans les nuages du stade de la Beaujoire en première période. Score final 0-0. Toujours pas de victoire pour l'OM. Ce pénalty, Dario Benedetto n'aurait pas dû le tirer. Oui, c'était à Dimitri Payet de le faire, mais ce dernier a désobéi. N'a pas écouté les consignes, un peu à la shérif Guémour. Il a voulu mettre en confiance son nouveau coéquipier, l'ancien de Boca, ce cher Benedetto.
Un partido complicado donde tuvimos la...
Ça a été un match difficile, compliqué pour moi. J'ai eu l'opportunité de convertir le penalty et malheureusement, je l'ai raté. Mais je tiens à remercier Dimitri Payet de m'avoir offert l'occasion de marquer, même si ça m'a surpris sur le coup. J'avais la possibilité de donner confiance à toute l'équipe. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Je tiens à saluer mes coéquipiers. On va continuer à travailler.
Double raté pour Dimitri Payet, qui donc n'a pas donné confiance à Dario Benedetto et qui a en plus agacé son entraîneur André Villas-Boas.
On est avec Dim pour faire les pénalties. On a très bien entraîné les pénalties dans toute la pré-saison. Et quand je me tourne vers le banc et Ricardo me dit que Dario va tirer, je suis énervé. C'est la première et la dernière fois que ça se passe.
Ouf, le ton est... Et direct, franc du collier, André Villas-Boas, cette offrande de Dimitri Payet, shérif Guémour, est-ce un geste positif? Je reprends les mots de l'intéressé, Dimitri Payet lui-même. Ou bien un geste inacceptable pour reprendre les mots de son entraîneur André Villas-Boas?
Non, mais c'est excessif, cette histoire de penalty. Enfin, moi, ça me choque pas. Enfin, le geste de Payet, au contraire. Moi, c'est pour le mettre en confiance. C'est un numéro 9 argentin. Donc, il est censé, exécuter ce genre d'exercice. Après, il le rate. Si on ne parle que de ça, après, si on occulte le contenu de la prestation de Marseille, c'est plutôt ça qui est inquiétant.
Oui, cette polémique. Je reste quand même sur le penalty, au-delà de savoir ce qu'aurait dû faire Dimitri Payet.
Alors non, c'est pas choquant.
On s'aperçoit quand même que tirer un penalty, il y a pas mal de ratés ce week-end. Ça nous le rappelle. C'est un geste technique comme un autre qu'il faut savoir réussir. Il faut des spécialistes. Et oui, du coup, c'est pas anodin de déterminer le nom du tireur de penalty.
Après, il est tiré aussi Benedetto en Argentine. C'est juste un joueur qui a raté un péno. Il n'a pas joué depuis 6 mois. Il arrive dans un contexte difficile parce que il se rend bien compte qu'à l'OM il se passe des trucs pas très clairs.
Il
l'a raté. Non, mais c'est ce que dit Chérif est vrai parce que aujourd'hui cette fausse polémique, en fait, la communication de Villas-Boas, c'est pas très intelligent d'ailleurs, elle traduit en fait tout le flou et la désorganisation de ce club. C'est qu'on se focalise sur un détail alors que si c'était uniquement ça le souci à Marseille, ça irait très bien.
Ouais.
C'est que voilà, c'est un souci en plus. Le match a été d'une piètre qualité technique, d'une piètre qualité psychologique dans l'état d'esprit. Nantes aurait mérité 10 fois de gagner, même si Marseille a raté son péno.
Quand Mandanda
et Mandanda a encore sauvé la baraque.
C'est le dernier.
On voit pas bien cette équipe. Alors on voit qu'elle navigue à vue, on sent qu'on sait pas bien où elle va, on sait pas bien ce qu'elle va faire de ses joueurs, des derniers jours de recrutement, comment elle va gérer. C'est plus inquiétant, de plus en plus inquiétant, ce qui se passe à Marseille, parce qu'en fait, on ne voit pas la solution.
Non, mais c'est révélateur. Quand on va chercher Benedetto, c'est quoi? On va chercher du tripal, c'est-à-dire un Argentin, un mec qui a la grinta. Voilà, c'est la grinta de Sanson, la grinta autrefois de Campos. Ça ne fonctionne que sur ça maintenant, Marseille. Tactiquement, il n'y a plus rien. Au niveau de l'état d'esprit, il n'y a plus rien. Donc, on mise sur les tripes. Avec
alors, juste préciser que Mandanda a réalisé pas mal d'arrêts. Rappeler aussi que l'OM a perdu son premier match. À part Mandanda qui retrouve son niveau et son poids de forme, on a l'impression que rien n'a changé. On a juste changé d'entraîneur, amené un ou deux joueurs, mais les mots sont toujours les mêmes après une saison ratée.
Les joueurs sont un peu plus bronzés parce qu'il y a eu des vacances, mais sinon, c'est la même équipe. C'est pareil. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que Villas-Boas prétend avoir vu tout tous les matchs de l'OM de période Rudy Garcia et donc d'agir en conséquence. Et il continue, sur le premier match, il continue à mettre Germain seul en pointe alors que tout le monde sait que ça ne fonctionne pas, que Germain, ça ne peut fonctionner qu'à deux devant, sinon il faut pas le mettre. Il continue. Quand il fait du coaching, il fait du poste pour poste et il met Benedetto seul en pointe. Alors que visiblement, Benedetto n'a pas encore la forme nécessaire pour jouer seul en pointe en Ligue 1, dans un championnat qu'il découvre, voilà. Et qui me semble, au niveau, en termes de volume de course, plus exigeant que le championnat argentin, sans faire injure au championnat argentin. Donc tout ça, à chaque fois qu'on parle à des suiveurs de l'OM, ils voient mieux les problèmes de l'équipe que le staff de l'équipe. Donc c'est qu'il y a un gros problème dans cette équipe. Et Villas-Boas, cette déclaration sur le pénalty, je la trouve scandaleuse, parce qu'il se refait de l'autorité à bon compte sur le dos des joueurs, alors que le geste de Payet, c'était un geste plutôt sympa pour mettre son coéquipier en confiance. Voilà.
Saïd Hamda, vous voulez participer au réquisitoire, c'est ça?
Non, mais la déclaration de Villas-Boas est ridicule. Peut-être qu'il l'a faite aussi pour dévier le sujet et qu'on ne parle pas de la prestation marseillaise.
Du contenu, ouais.
Je ne sais pas, donc maintenant on s'attarde sur le pénalty. Mais ce que fait Dimitri Payet finalement est assez fin et intelligent. On veut mettre en confiance l'attaquant qui vient d'arriver. Il arrive, il ouvre son compteur but, ça peut être pas mal. Le pénalty, Benedetto le met, on n'en parle pas. Il dit jamais c'est la seule et la dernière fois. Même si ça devait être le cas, c'est quelque chose qui se dit en privé dans
bien
le vestiaire. T'as pas besoin de venir faire la conférence de presse pour venir expliquer ça aux journalistes. Donc maintenant, le geste de Payet est logique. On a un nouvel attaquant, on essaie de le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Donc, c'est vrai que la réaction de Villas-Boas est assez étonnante.
On se souvient que Payet, il avait offert un but. Je sais pas si c'était la saison passée ou la saison encore d'avant, me semble-t-il. Il a offert un but à Mitroglou. Mitroglou, alors en mal de ouais. confiance.
Qu'est-ce qu'il est sympa, ce Payet. Non, mais le souci de l'OM, c'est, je pense qu'ils avaient vraiment profondément dans l'idée de vendre trois gros salaires. Vrai, donc, t'as Mandanda, t'as Rami, t'as Gustavo, t'as Strootman, t'as Thauvin, t'as Payet. Le problème, c'est qu'ils ont pas eu les offres.
Ils ont juste viré Rami.
Ils ont juste viré Rami, ils vont peut-être même perdre de l'argent. Ils vont peut-être même perdre de l'argent.
Ils
avaient dans l'idée de vendre trois gros salaires pour alléger la masse salariale, récupérer de l'argent et recruter des jeunes pour repartir sur un nouveau cycle. Sauf que les ventes, elles ont pas eu lieu. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas eu d'offres ou si c'est parce qu'ils ont mal géré les dossiers. Mais les ventes, elles ont pas lieu. Il reste une poignée de jours d'ici le mercato. Tu vas très vraisemblablement repartir avec peut-être Strootman en moins, mais tu vas vraisemblablement repartir avec quasiment la même équipe que l'année dernière. Donc avec les mêmes mots. Et surtout une profondeur de banc quasi nulle.
Allez, shérif. Un dernier mot sur l'Olympique de Marseille. On enchaîne ensuite.
Au niveau de la direction, c'est n'importe quoi. Au niveau du directeur sportif, Zubizarreta, il a sous-estimé la Ligue 1. Je suis désolé, il est pas en phase du tout.
On voit pas ses réseaux, quoi. On voit pas ses réseaux.
Voilà. Troisièmement, une équipe fatiguée qui est en fin de cycle. Et quatrièmement, un entraîneur qui cherche à se relancer. Ces quatre facteurs-là, ça ne crée pas une dynamique. Donc, on risque de voir un OM pas très intéressant. Je dis pas qu'ils vont finir 17e et tout ça, on n'en sait rien. La base... Une saison pas intéressante. Moi, l'année dernière, j'ai pas regardé les matchs de l'OM. Je regardais parce que voilà, je les regardais quand même.
Mais et vous attendez un peu un copier-coller cette saison.
On l'a bien compris. Ça peut être une saison à la Mitchell. Hein.
Petite consolation pour les supporters de l'OM. Il y a pire, pas très loin.
Ouais, il y a pire. C'est
le rocher sur le rocher monégasque, par exemple. Deuxième défaite 3-0 en deux journées pour Monaco qui sort d'une saison cataclysmique. On le sait, Lyon. Défaite à domicile contre Lyon lors de la première journée, ça c'est acceptable, 3-0.
Ça fait
3-0
déjà mal.
Lors de la deuxième contre un promu Metz.
Ah oui, ça fait très mal.
Malgré Wissam Ben Yedder, malgré des recrues, Benjamin Lecomte dans les buts, le Nigérian Nyekuru en attaque.
Justement, vous parlez de recrues dans les buts, vous parlez de recrues en attaque. Certes, elles sont là, elles sont, je pense, bonnes. Nyekuru, c'est un bon joueur pour percuter sur le côté. Ben Yedder, c'est peut-être le meilleur finisseur français en activité. Lecomte, c'était un des meilleurs gardiens de Ligue 1 ces deux dernières saisons, donc tout ça c'est cohérent. Et on peut ajouter Aguilar sur le côté de Montpellier qui est un bon joueur
expulsé contre
attaquant
Metz,
voilà.
Il y a pas mal de
Fabregas expulsé mais le drame c'est au milieu et en défense. La défense de Monaco, si vous regardez la liste, c'est Glick, Jemerson, deux joueurs finis ou complètement à la ramasse.
Deux cadres du titre.
Naldo,
qui ne faut plus rien depuis.
Qui a 35 ans passé, qui était catastrophique la saison dernière quand il est arrivé en janvier. Et deux jeunes, Panzo, Badiachil, moins de 20 ans, aucune expérience. Et Monaco ne cherche visiblement pas de défenseur et continue d'empiler des joueurs offensifs. Donc
Patrick,
moi je comprends pas. Au milieu, Ils ont perdu par rapport à l'année où ils étaient demi-finalistes de Ligue des Champions. Ils ont perdu Bakayoko, Fabinho et Moutinho. Aucun n'a été vraiment remplacé. Ouais. Et ils jouent avec Jemerson, Golovin et Bosquilia, qui sont pas des milieux de terrain, qui sont des milieux offensifs. Ou un défenseur, Jemerson. C'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi.
Disons que le souci d'un projet qui est basé sur le trading, voilà. La pierre angulaire, c'est de bien recruter. Jusqu'à présent, Monaco recrutait bien quand c'était Campos.
Bien recruté pour vendre cher.
Bien recruté pour bien exploiter et vendre cher. Campos le faisait très bien, c'était les réseaux Jorge Mendes. Ils ont eu pléthore de joueurs. On a parlé de Fabinho, il y a eu Bakayoko, il y a eu
Bernardo Silva.
Tu as eu tous ces joueurs-là. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Monaco recrute mal, voire très mal. C'est-à-dire que les joueurs arrivent, soit ils sont pas utilisés parce qu'ils sont pas au niveau, soit ils sont utilisés mais ne sont pas au niveau et donc ça marche pas, et tu vends finalement très peu. Et à un moment donné, sur 2-3 saisons, parce que ça se joue sur d'une saison sur l'autre, il faut voir ça en avance, progressivement, ton équipe, elle a été moins forte, et tu te rends compte que les joueurs que tu dois utiliser sont pas bons, et que ceux que tu as sur le banc, soit sont très jeunes et inexpérimentés, soit sont complètement carbo. Et donc là, faudrait renouveler tout un effectif. Le problème, c'est que ça, sur une saison, sur un mercato, c'est pas possible.
Et c'est pour ça, justement, qu'on allait chercher Jardim, c'est pour reconstituer un puzzle qui n'existe plus de toute façon.
Jardim viré en cours de saison dernière pour revenir en cours de saison.
Ce qui est difficile,
si tu revires, tu seras obligé de revenir.
Ouais. Le projet, effectivement, ça consistait à allier des prospects, des joueurs jeunes en devenir, avec quelques grognards, quelques joueurs expérimentés. Le problème, c'est que les bons jeunes, vous les avez revendus, vous en avez racheté d'autres qui sont un peu moins bons, et par contre, les vieux grognards expérimentés que vous aviez pris il y a 4-5 ans, ils ont pris de l'âge et maintenant ils sont cramés, finis, ils ont eu des blessures comme Glick, certains ont même arrêté comme Radji, donc ça ne peut plus fonctionner, il faut changer un peu le logiciel, et je pense que c'est ils doivent acheter d'urgence des défenseurs et des milieux défensifs.
Il ne reste plus que les trois, Subasic, Jemerson et
Saïd Hamda rapidement.
Ils doivent acheter d'autres joueurs confirmés. C'est vrai que c'est bien d'investir sur des jeunes, c'est une bonne idée, on peut les revendre, etc. Mais pour que les jeunes fonctionnent, et c'est comme ça que ça avait fonctionné en 2017, c'est qu'il y avait un équilibre entre jeunes et joueurs expérimentés, ce qui n'est plus aujourd'hui. La saison dernière, moi, Monaco me faisait vraiment de la peine. Ils commençaient à sortir des jeunes du centre de formation, à les faire jouer à 17, 18 ans. Je me souviens, Moussa Sylla a été lancé, Sofiane Diop a été lancé. C'est pas un modèle viable. Donc Monaco, aujourd'hui, est prêt à mettre 65 millions sur Icardi, alors qu'aujourd'hui, c'est en défense le principal chantier ou en milieu récupérateur.
Lancer des jeunes, c'est pas un scandale en soi. Ça fait
mais
partie du projet.
Ça,
le problème, c'est quand lancer des jeunes, ça devient une obligation, et quand ces mecs-là qui devraient être des choix numéro 3 deviennent des choix numéro 1. Rappelez-vous la campagne de Ligue des Champions où vous avez eu le petit Kefren Thuram qui avait été aligné, parce que c'était devenu des choix numéro 1. Ça veut dire qu'au niveau des renouvellements de l'effectif, de la manière dont on a géré l'effectif, le mercato, il y avait une saison de retard en gros.
Allez, on va boucler la boucle. On parlait de Nice en ouverture de cette émission. On va parler de Nice pour refermer cette émission, mon cher Patrick.
Qu'est-ce que je suis bien traité,
effectivement. Et on parle même pas de votre salaire, ça reste confidentiel. En attendant le rachat par Jim Ratcliffe, milliardaire britannique, et le retour des anciens dirigeants, Fournier et Ribéry, le club devait vivre un début de saison compliqué, avec des matchs de préparation catastrophiques, avec un mercato donc bloqué par ce rachat qui va être validé dans les jours qui viennent. Et finalement non, ça se passe très bien pour l'équipe de Patrick Vieira, deux matchs, deux victoires. Amiens le premier week-end de Ligue 1, Nîmes le week-end dernier. Quel miracle!
Un miracle, oui et non, parce que on retrouve en fait les vertus de l'OGC Nice de la saison dernière. Patrick Vieira était arrivé avec des grandes ambitions, un projet de jeu très offensif. Il avait rapidement vu qu'il n'avait pas le matériel pour satisfaire cette ambition. Il s'était plutôt concentré sur une construction défensive solide, une vraie cohésion, une solidarité. On la retrouve. Dante, qui a été relancé, on lui a adjoint des joueurs comme plus dynamiques, qui vont plus au duel, comme Christophe Herel, par exemple. Atal ne joue pas, mais le recrutement d'Atal avait fait beaucoup de bien aussi la saison dernière. Et ça fonctionne. Ça fonctionne sur les côtés. On voit des joueurs se révéler. Donc c'est surtout ces vertus-là. Et la preuve, c'est que le match contre Amiens à domicile, les deux buteurs de Nice, c'est Dante et Christophe Herel, deux défenseurs. et contre Amiens, oui, je voulais dire, et contre Nîmes, bon, Nice a profité d'un très mauvais début de match de Nîmes et a su gérer ensuite, mais c'est pas non plus, on n'atteint pas des sommets dans le jeu, mais la solidarité est là.
Le Danois Dolberg est notamment annoncé pour la fin du mercato du côté de Nice, le bon élève donc de la Côte d'Azur en Ligue 1 pour l'instant. Merci Patrick Julliard, merci Naïm Moniol, merci Chérif Guémour, merci Saïm Amda d'avoir participé à cette émission, merci Laurent Salerno, merci David Finzel. Radio Foot, vous nous écrivez sur Facebook, sur la page de l'émission. On revient demain. En attendant, excellente soirée à vous sur les antennes de RFI. Autour de la